Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Courrier et Québec Science. Au programme, le courageux voyage de la famille Al-Nassan pour devenir Canadien. Comment exprime-t-on l'amour d'un pays à l'autre? Et loin, si loin, de Staline. Bonne écoute.
Le courageux voyage de la famille Al-Nassan pour devenir Canadien, un texte de Rosie Aucoin-Grace, paru le 13 avril 2023 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Lifeline 224 est un comité de bénévoles, d'entreprises et d'organisations locales créé il y a plus de 7 ans afin de promouvoir le parrainage et l'intégration des réfugiés au Canada. Il s'efforce à, entre autres, trouver un logement adéquat pendant la période de parrainage de 12 mois, qui peut s'avérer très difficile. L'objectif modeste de Lifeline 224 est de tendre la main à tous ceux qui souhaitent aider à l'intégration de ces nouveaux arrivants dans la région, d'accepter des contributions généreuses, financières ou autres, et de sensibiliser et d'éduquer afin de devenir une communauté accueillante. Selon Howard McKay, président, il s'agit d'une situation gagnant-gagnant, un refuge sûr et un nouveau foyer pour les arrivants, de jeunes familles, pour une communauté vieillissante. Monsieur McKay a parlé du processus. L'installation comporte de nombreux défis et toutes les familles les ont relevés avec détermination. Les enfants se sont installés dans les écoles locales et deviennent trilingues, anglais, français et arabe. Les parents ont un emploi et sont propriétaires d'une maison dans la communauté. Après 1 an de soutien de la part de Lifeline 224, ils sont maintenant autonomes et ont un monde d'opportunités. Le premier projet de parrainage, avec Rahmed Al-Romi, Mahmoud Abdul, Lou Jayan et Roua Al-Nassan, pour une réinstallation à Chétikan en 2016, avec l'aide de l'Église unie St. Andrews de Pleasant Bay, a été un grand succès et d'autres familles ont suivi depuis. Le 4 avril 2023, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour soutenir la famille Al-Nassan, qui est devenue canadienne, lors d'une cérémonie de citoyenneté virtuelle qui s'est déroulée au centre d'accueil de Chétikan, du parc national des Hautes Terres du Cap-Breton. Monsieur McKay s'est adressé à la foule. Officiellement, Lifeline 224 ne s'occupe des familles que pendant la première année où elles sont ici. En réalité, ces familles deviennent nos amis et, comme pour tous nos amis, l'aide et l'assistance sont éternelles. À cet égard, je tiens à mentionner Heather Davis, membre du comité qui se surpasse pour aider ces familles. Les défis qu'ils ont relevé pour arriver à ce jour important, m'inspire, déclare Heather Davis, membre du comité et ami. Par-dessus tout, ils m'ont appris que si vous vivez dans un pays où votre famille est en sécurité, comme le Canada, vous avez toutes les richesses du monde. McKay poursuit. Je me rends compte qu'au-delà de la cérémonie de citoyenneté de la famille Al-Nassan, c'est le courage qui est célébré aujourd'hui. Tout d'abord, le courage de Paul et Joanne Desvaux de penser que cette petite communauté pourrait accueillir et installer une famille syrienne. le courage du comité Lifeline 224, composé de Paul Desvaux, Alfred Poirier, Marcel Bourgeois, Christine Doucet et Lenora Timmons, qui a déterminé la marche à suivre, obtenu le soutien de la communauté, collecté des fonds et sélectionné la famille Al-Nahassan. Le courage de l'Église unie St. Andrews de Pleasant Bay, ajoute-t-il, le parrain officiel de la famille, qui a cru qu'une petite congrégation pouvait faire de grandes choses avec un peu d'aide. Le courage des églises, des organisations et des entreprises locales, qui savaient qu'il s'agissait d'un objectif louable et qui l'ont soutenu. Le courage de la communauté locale de Chétiquan, qui a ouvert ses bras à ses nouveaux arrivants et les a intégrés au tissu local. Une communauté qui, par le passé, a connu le déplacement, les difficultés et la nécessité de construire un nouveau foyer. Et surtout, le courage de Ahmed et Mahmoud, qui ont emmené leur famille d'une région déchirée par la guerre vers un pays sûr, offrant un avenir à leurs enfants. Il est difficile d'imaginer le courage nécessaire pour quitter sa maison, sa famille élargie et sa culture. Mais les connaissant, je vois ce courage au quotidien. Et c'est formidable d'être ici aujourd'hui avec eux pour leur cérémonie de citoyenneté, l'accomplissement d'un rêve. Mahmoud, très ému, s'est exprimé avec gratitude. Nous voulions simplement dire que nous sommes très heureux d'avoir obtenu notre citoyenneté et d'être désormais Canadiens. Une fois encore, nous remercions tout le monde d'être ici aujourd'hui et pour l'aide que vous nous avez apportée au fil des ans, a déclaré Mahmoud. Nous aimons faire partie de votre communauté. Tout au long de la cérémonie, je n'ai cessé d'imaginer l'horrible parcours de la famille à Al-Nahassan et de me dire que c'était comme trouver la marmite d'or au bout de l'arc-en-ciel, entourée du drapeau de leur nouveau comté, de leur nouvelle maison. Ils sont une véritable source d'inspiration pour leur détermination et leur survie. C'était le courageux voyage de la famille Al-Nahassan pour devenir Canadien, un texte de Rosie Aucoin-Grace, paru le 13 avril 2023, dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Comment exprime-t-on l'amour d'un pays à l'autre? Un texte de Annie Labrecque, paru le 13 février 2023 dans le magazine Québec Science. Des scientifiques se sont intéressés à l'amour, cette émotion complexe, en tentant de comprendre les facteurs socioculturels qui peuvent l'influencer d'un pays à l'autre. L'amour est un sentiment universel qui survient peu importe la langue, la religion ou le lieu de naissance. Mais y a-t-il des facteurs sociaux, culturels ou environnementaux qui influencent la façon d'exprimer et de ressentir l'amour? Voilà la question posée par un groupe de scientifiques qui a publié ses résultats dans Scientific Reports. L'équipe internationale a ainsi sondé 9474 personnes de 45 pays, le Canada ne faisait pas partie du lot, pour comprendre s'il y avait un lien entre le sentiment amoureux et différents facteurs sociologiques, comme le niveau de modernisation, l'égalité des sexes et le degré d'individualisme-collectivisme de la société, soit le fait de prioriser l'individu ou le groupe. L'étude a aussi inclus la température annuelle moyenne, des études précédentes ayant montré que celle-ci influe sur la proximité sociale et l'expression des émotions. Citation : Pour mesurer le sentiment amoureux, nous avons utilisé pour cette étude la théorie triangulaire de l'amour. Fin de citation, explique Piotr Sorokowski, auteur principal de l'étude et chercheur en psychologie à l'Université de Wrocław, en Pologne. Cette théorie de l'amour repose sur trois dimensions, l'intimité, la passion et l'engagement, qui se combinent à des degrés variables selon les relations. Les scientifiques ont ainsi observé qu'en général, citation, les participants des pays ayant des niveaux plus élevés de modernisation, d'égalité des sexes et un plus grand collectivisme ressentaient plus d'amour, en particulier un sentiment d'intimité envers leurs partenaires. Fin de citation. Les chercheurs et chercheuses ont aussi remarqué une corrélation positive entre les températures moyennes plus élevées et le sentiment amoureux. Mais comme le mentionne Piotr Sorokowski, citation, notre étude ne montre pas clairement comment la température affecte le niveau d'amour et ne donne pas de résultats sans équivoque à cet égard. Fin de citation. Quel pays possède le plus haut niveau d'amour? Il semble que certains clichés soient fondés. Citation, les données indiquent que les Italiens affichent l'un des plus hauts taux. Fin de citation, observe le chercheur de l'Université de Wrocław, sans pouvoir s'avancer davantage sur les raisons plaçant l'Italie dans ce palmarès, aux côtés d'autres pays comme les États-Unis, le Portugal et l'Indonésie. Ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle le niveau de modernisation d'un pays peut avoir une influence sur les expériences amoureuses et sur la façon dont les gens ressentent et expriment leur amour. Alors que les pays plus collectivistes, comme l'Inde, sont associés historiquement à une tradition de mariages arrangés plutôt que de mariages d'amour, selon l'équipe, le niveau d'intimité et d'engagement y apparaît plus élevé. Citation, les valeurs collectivistes promeuvent une vision plus relationnelle des rapports amoureux. Ainsi, les individus dans les pays plus collectivistes pourraient être plus altruistes envers leurs partenaires. Fin de citation, peut-on lire dans l'étude. Les scientifiques prennent soin de souligner que leurs résultats sont basés sur des données statistiques et que les expériences individuelles en amour peuvent varier considérablement en fonction de nombreux facteurs et qu'une étude ne pourrait décider à quel point on peut tomber amoureux ou amoureuse. Parmi les pays participant à l'étude, les personnes sondées provenant des États-Unis, de la Hongrie, de l'Italie et du Portugal sont celles ayant déclaré vivre les relations les plus aimantes. Alors que celles vivant en Allemagne, en Chine, au Pakistan et en Turquie ont révélé ressentir les relations les moins aimantes. C'était « Comment exprime-t-on l'amour d'un pays à l'autre ?» un texte de Annie Labrec, paru le 13 février 2023 dans le magazine Québec Science.
Loin, si loin d'Estaline. Un texte de Marie-Andrée Lamontagne paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient. Qui regarde se lever un pâle soleil d'hiver, ses stries roses en attente sur l'horizon, les branches dénudées des arbres qui remuent faiblement à l'avant-plan, l'air figé dans le froid, pourrait croire le temps aboli. Illusion. Tôt ou tard, pleurs d'enfants ou révolutions, il se remettra en marche. C'est le temps de l'histoire. Nul n'y échappe, on dirait. Et pourtant. Voici un petit groupe humain habitant dans une vallée enclavée, quelque part en Roumanie, dans la région de Brasov, au cœur des Carpates, précisera une note des traducteurs, dans les décennies de l'après-guerre. Là, des ouvriers s'affairent à construire une voie ferrée, signe indéniable que le progrès a bel et bien rejoint la vallée en dépit des apparences. Le contremaître est un colosse à poigne, qui n'en veille pas moins, paternellement bourru, sur ses hommes, obéissants. Mais le chantier est voué à demeurer inachevé, et pour cause. Le tracé du chemin de fer s'est perdu dans des méandres bureaucratiques. Qu'importe. Le labeur des hommes fourmis continue. Ce n'est pas la seule absurdité voulue par l'époque. Dans la vallée, il y a aussi un asile et sa trentaine de fous, ou présumait-elle, puisque le régime aime à coller ce genre de diagnostic aux citoyens les plus remuants ou inadaptés. Or, cette vallée à l'écart est l'endroit idéal où reléguer les fous. Le docteur qui les soigne et le pope dans son ermitage, autre personnage central de cette petite société, se livrent régulièrement, pour leur plus grand plaisir, à des engueulades homériques entre la science et la foi, tout en se saoulant avec méthode, comme ils le font tous ici. Le temps qui accourt dans la vallée est celui de la répétition. Se lever, manger, s'enfiler l'agneau local au moindre prétexte, abattre la besogne, cogner quand l'insulte l'exige, tâcher d'oublier la vie d'avant et son lot de drames. Voilà pour l'ordinaire. L'exception, heureuse ou tragique, et pour laquelle on s'endimanche, viendra tantôt d'une noce, tantôt d'un enterrement. Peu de femmes dans ce monde peuplé d'hommes au travail. Au cœur du roman, elles ne seront que deux, et pas d'enfants, sauf un. Sa présence remuante, avant que la nécessité d'aller à l'école ne l'éloigne de la vallée, réintroduira dans ce milieu un temps qui n'est plus uniquement répétition, mais intègre l'horizon de la mort, contrepartie de la naissance et l'eau de tous, ce que chacun croyait pouvoir oublier avant l'arrivée de cet enfant. C'est dans ce cadre que s'installe un jour Yoshka, homme de peu de mots, à la mémoire chargée des scènes de violence dont il a été témoin dans son jeune âge, quand les Russes sont entrés dans son village, puis pendant les années passées au camp sous Staline. De la vallée, ce forgeron de métier ne bougera plus, vivant de peu dans la bicoque qu'on lui a attribuée, se rendant utile en fabriquant du charbon de bois pour les uns et les autres, connaissant une parenthèse de félicité conjugale avec son amour de jeunesse, Ilona, venue l'y retrouver un jour, jusqu'à y devenir vieillard, assis sur son banc et remuant ses souvenirs. Yoshka est aussi le titre du roman puissant, le premier à être traduit en français, que signe l'écrivain, traducteur et éditeur roumain Christian Fulas. Contrairement à ce que laisse entendre le fil ainsi déroulé, la trame narrative de Yoshka n'a rien de linéaire ni de factuel. Aussi complexe que la vie, elle va et vient à travers les années, les pensées, les souvenirs, et sa focale est régulièrement redéfinie dès lors que varient les regards posés sur les personnages, leur passé, leurs aspirations, de manière à rendre compte de la richesse de l'existence des gens dits « ordinaires » plutôt que des hoquets de l'histoire événementielle. La Seconde Guerre mondiale, les luttes nationales, l'oppression, le régime de Ceausescu, sa chute, le développement immobilier ou l'essor du tourisme de masse apparaissent ici en filigrane et pour ce qu'ils sont. Autant de visages d'un pouvoir diversement lointain ou menaçant selon les jours. Surtout, ce pouvoir-là est bavard. Il multiplie les injonctions de toutes sortes, alors que le silence est une seconde nature pour les habitants de la vallée. Yoshka, Ilona, le contremaître Vasile et leurs semblables taiseux sans instruction. Silence habité, cependant, nourri de réflexions sur des sujets importants. Or, ces réflexions sont souvent pénétrantes. Prenons l'âme. Les icônes, pourvu Dieu qui nous regarde, en ont une. Chose plus compliquée, suivant l'idée que s'en fait le docteur pourtant libre penseur et athée, l'âme se déplace dans deux directions. Tantôt vers l'extérieur par la parole et l'action, et ce mouvement-là est positif. Tantôt vers l'intérieur, où elle devient folie et furie, comme le médecin l'explique à son ami le pope, un jour d'ivresse éthylique. Freud n'aurait pas protesté. Prenons la mort. Elle survient moins au dernier souffle que dans l'effacement progressif opéré par le travail du deuil, comprend Ilona en fleurissant la tombe d'une mère aimée. Cet effacement devient alors la vraie mort, qui entrelace le passage de l'autre, le présent et qui vit auprès de nous vers quelque chose d'absent, quelque chose qui n'est composé que d'images et de souvenirs disparates, comme étrangers les uns aux autres, petites icônes et frêles sentiments constituant ce que nous appelons la mémoire et en même temps l'oubli. En Roumanie, Christian Fulas s'est lancé dans l'entreprise de traduire Proust, et on pourrait se dire, en effet, que la vision panoramique et l'ample respiration présentes dans la recherche ont infusé dans Yoshka, avec le résultat cependant que le roman ne traînera plus des deux côtés socio-géographiques que nous savons, mais camperait résolument du côté de Françoise, c'est-à-dire du peuple. Yoshka ne cherche pas à magnifier la vie des gens ordinaires, que sont aussi le pop et le docteur, en dépit de leur bibliothèque. Il en montre l'étoffe, à la trame tout aussi subtile que celle ayant tissé les vies de Swann, Charlus ou la duchesse de Guermantes. Au passage, il retient un instant l'éclat d'un monde, celui des paysans roumains, leurs gestes, leurs rites, leur détresse, leur vitalité, engloutie dans l'absurde et vulgaire modernité. Justesse du regard, intuition, intelligence, interrogation, sensualité. Les pages de ce roman en sont pleines, comme elles sont jalonnées de moments de grâce où il n'y a plus qu'à se poser pour méditer sur le paragraphe qu'on vient de lire. Vous écoutez « Loin, si loin des Stalines ». Un texte de Marie-André Lamontagne paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient. Le dieu des petites gens. Restons en Europe centrale, mais déplaçons-nous en Pologne. La condition humaine devient misérable dans un monde désenchanté. Tel pourrait être le constat fait en filigrane dans Bardot, la crèche, l'une des excellentes nouvelles, elles sont nombreuses, de Jeux sur tambour et tambourin, de la romancière polonaise Olga Tokarczuk, dont le goût pour l'histoire, la métaphysique et le surnaturel trouvent ici à s'illustrer une fois de plus. Mais d'abord, un peu de théologie. Le christianisme a cette particularité de pouvoir abolir le temps, du moins chez les croyants aptes à se frotter au mystère de la foi. Ainsi, comme le veut le dogme, le sacrifice de Jésus, loin d'être une simple commémoration, a bel et bien lieu à chaque messe pendant l'élévation, alors que l'hostie devient la présence réelle du Christ. Dans Bardot, la crèche, la foi populaire reprend l'idée en l'appliquant à la naissance de l'enfant Jésus, qui a lieu en permanence partout. Le temps linéaire n'existe plus. Sur un mode gentiment érudit, la nouvelle commence par faire l'histoire de la crèche en tant que représentation d'une naissance hors du commun dont les détails sont empruntés aux évangiles apocryphes où abonde le merveilleux. De saint François d'Assise, premier metteur en scène de l'événement, le récit en vient à la crèche, avec la majuscule, celle de Bardot, dans les Sudètes, qui apparaît pour la première fois dans des documents en 1591. Au fil des siècles, les artisans locaux ont pris l'initiative de l'enrichir de nombreux accessoires, personnages, décors, bêtes, ornements, sans ordre ni méthode, jusqu'à en faire une sorte d'automate magnifique, à mesure que s'imposait l'évidence selon laquelle ce n'était pas l'instant de la naissance de Dieu qu'il fallait présenter au monde, mais à l'inverse, présenter le monde entier à la nativité. Mais on peut faire confiance à la modernité. Le désenchantement viendra. Impossible de rendre compte de la vingtaine de nouvelles ici réunies tant elles renvoient à autant de micro-univers riches et singuliers. Ouvre les yeux, tu es mort, montre à l'œuvre une habile et plaisante contamination du réel et de la fiction chez une lectrice de romans policiers. Dans la divination par les haricots secs, un fonctionnaire du Parti communiste polonais rend régulièrement visite à une fratrie de vieillards, dont l'un, Genia, prédit l'avenir en triant les haricots. Mais ce faisant, le fonctionnaire vit surtout dans la crainte d'être accusé d'espionnage, Staline étant encore au pouvoir. Olga Tokarczuk, qui a fait des études en psychologie et travaillé comme psychothérapeute dans ses jeunes années, aura sans doute puisé dans ses souvenirs pour écrire la nouvelle Che Guevara, où se croisent folie individuelle, celle d'un homme qui se prend pour le célèbre révolutionnaire, et folie collective, celle qui gagne la société polonaise le 13 décembre 1981, alors que l'état de guerre est déclaré. Publié en Pologne en 2001 et maintenant traduit en français, le recueil « Jeux sur tambours et tambourins » est antérieur à l'attribution du prix Nobel de littérature 2018 à celle qui, entre autres réussites, aura fait de la vie picaresque de Jacob Frank une éblouissante épopée des rêves et des divagations d'un chef religieux au siècle des Lumières, où fait surgir un village polonais à partir de 84 temps diversement attribués. Dans la nouvelle éponyme « Jeux sur tambours et tambourins », la narratrice est une femme quelconque, sans signe particulier, qui s'enfonce dans la ville munie de ses dons d'observatrice comme d'une boussole. Bientôt, cette femme jouera du tambour sur la vie des gens. Cette femme écrit, bien sûr. C'était « Loin, si loin des Stalines », un texte de Marie-André Lamontagne paru au printemps 2023 dans L'Inconvénient.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visez-voir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lina Marche, Jocelyne Langevin et André Lebeau à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.